cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Katia Bouniatichvili.
Bonjour.
Vous publiez votre premier album sous votre nom, un album exclusivement consacré à Liszt. Je rappelle que vous avez 23 ans, vous êtes pianiste, vous êtes géorgienne, vous êtes née à Tbilissi. Votre nom n'est pas tout nouveau, on peut dire qu'il commence un peu à tourner dans la classicosphère depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. Vous avez fait quelques apparitions au disque, notamment aux côtés de Gideon Kremer. Faire un premier album comme ça, c'est un peu, j'imagine, comme une carte de visite. Est-ce qu'on doit vraiment réfléchir énormément au programme qu'on veut jouer, puisque c'est un peu là, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas vraiment très bien, est-ce que vous avez beaucoup cogité, est-ce que vous avez beaucoup hésité par rapport au programme, et ensuite on parlera plus précisément du contenu de cet album?
Énormément. Une seule chose que je savais vraiment était que je voulais enregistrer Liszt, ça c'était sûr.
C'était d'une évidence.
Oui, c'était évident parce que je voulais faire ça depuis que j'ai 15-16 ans, et j'avais une idée assez claire pourquoi je voulais faire Liszt. Et je voulais absolument faire ça. Après, c'était beaucoup plus difficile de choisir le programme et faire la dramaturgie, parce que je voulais absolument qu'il y ait une histoire qui sera racontée, avec la musique, bien sûr. Liszt, parce que je croyais que c'était le compositeur qui avait une capacité de montrer les différents détails de personnalité, les différents personnages qui est quelque part un nom, et unité de tous ces personnages. Je crois Liszt, il avait ce côté très harmonieux d'unifier toutes ces qualités et défauts d'une personne avec l'harmonie. Donc c'est pour ça que je voulais faire Liszt. Et à part ça, c'est un compositeur qui me fait très jeune, comme parce que c'est un compositeur qui était très brillant, très virtuose. Il y a ce côté hongrois et gypsy, comment on dit en français,
gitan.
Qui est très fort, et c'est un plaisir physique de jouer parce que c'est comme les gitans qui dansent ou qui jouent le violon. Et ces côtés-là, très jeunes, je voulais garder aussi pour le premier disque parce que c'est quand même le premier coucou que j'ai fait.
On le voit dans le choix, même dans le choix des œuvres. Vous parlez d'un personnage, effectivement, Liszt, à multiples facettes.
Exactement, oui.
Et on le voit dans le choix des œuvres que vous avez non seulement choisies, mais dans l'ordonnancement, dans le tracklisting.
Exactement, c'était très important, oui. C'était important que ça soit commencé par Liebestraum, Rêve d'amour, parce que je voulais faire une prologue pour la sonate de Liszt, qui est une sonate un peu faustienne, et je croyais que d'écrire une émotion, parce que les livres, normalement, ça commence par une description d'une nature ou d'un personnage ou d'un portrait ou des émotions. Donc je croyais que d'écrire une émotion comme l'amour, c'est un très bel commencement pour un disque et surtout pour le thème de Faust. Et après, Le Coupe-Gondole, c'est une œuvre qui correspond à la mort. Et surtout, c'est très important pour moi parce que c'est mon œuvre préférée de sa dernière période, qui était très différente de ce qu'il a écrit au milieu ou au début. Donc j'ai voulu justement de sa dernière période une œuvre, et j'ai choisi le Coupe Gondole parce que c'est une œuvre trop moderne pour son époque. Et il avait Atonalité, par exemple, qui était absolument inimaginable à cette époque, ou des chromatismes, ou de rythmiquement des choses absolument incroyables, très novatrices, et très beaux, et très profonds. Et donc, c'était une belle épilogue. Et puis, Backlist, c'est comme la vie ne cesse pas, parce qu'il y a une autre personne qui se naît quand quelqu'un est mort. Donc, c'est un peu cette communion de Bach et Liszt, et cette, vous savez, cette shake hand, je ne sais pas comment on dit en français, quand on
serrer
la main à l'autre personne, voilà, c'est ça qui fait la vie, que la vie continue. Donc c'était un peu ça, cette résurrection, disons.
Et la sonate en si mineur aussi, également, dans le milieu.
Oui, ça, c'est le cœur de... Okay. de disque. Mais
vous
ça,
avez parlé autour, vous n'avez pas parlé du cœur, en fait.
Oui, parce que je crois que c'était évident, dans le sens que c'est une œuvre où on voit tous les qualités et défauts et toutes les personnalité que Liszt il avait lui-même, tous ses côtés diaboliques ou divines ou humains, ou tous les côtés. Donc dans cette sonate, d'ailleurs c'était la première sonate qui était écrite dans un seul mouvement, et c'était aussi très novatrice. Et dans cette un seul mouvement, il y a unifié tous les mouvements qui pouvaient exister, 4 ou 5 ou 3. Et toutes les personnalités, tous les caractères et des différentes facettes de personnalité, tout est montré dans cette sonate. Donc là, on pouvait vraiment montrer tout l'univers de Liszt, je crois, seulement avec cette sonate.
Est-ce que pour un pianiste, pour un jeune, enfin une jeune pianiste, c'est un peu une sorte de rite obligatoire, cette œuvre, cette sonate? C'est un passage, même si c'est un choix personnel, évidemment, avant tout. Est-ce que c'est une œuvre emblématique qui est essentielle et commence... À quel moment, par exemple, cette œuvre, cette sonate, vous l'avez jouée dans votre parcours, dans votre éducation musicale?
J'avais abordé. J'avais 15 ans quand je jouais la première fois. Non, c'était pas parce que c'est une œuvre nécessaire dans notre répertoire. C'était pas ça la raison. C'est parce que c'est là que j'ai vraiment senti que Liszt était un compositeur géant, non seulement un virtuose avec ses rhapsodies hongroises, mais qu'il avait vraiment énormément à dire. Et énormément dans le sens aussi forme musicale et des réformes qu'il a fait dans l'école pianistique, c'était énorme. Donc en fait, moi-même, j'étais passionnée de jouer cette œuvre parce que ça dure 30 minutes, et même si c'est une œuvre assez académique, parce que tous les pianistes ils jouent et tous ils sont dans le répertoire, on a une possibilité de montrer tout notre côté, c'est-à-dire notre côté qui est plus profond quand on a besoin de la maturité, mais aussi se laisser un peu faire, se laisser toutes nos émotions de sortir. Ça nous donne vraiment la possibilité. Ça dure 30 minutes, et pendant ces 30 minutes, on a la capacité de faire toutes ces choses. On n'a pas vraiment un souffle. Ça commence et ça finit, et ça dure 30 minutes. C'est énorme, émotionnellement. C'est comme un acteur qui va jouer toute une solo piece, où il joue tout seul, un vrai drama. Il commence et il finit lui-même. C'est exactement comme ça. Donc ça m'a donné énormément première fois quand j'ai joué sur la scène.
Quel rapport vous entretenez avec les disques, les disques en général dans votre éducation musicale? Est-ce que il y a des musiciens qui restent très très attachés aux partitions, etc., qui n'osent pas trop se pencher sur les enregistrements du passé? Quel rapport tout au long de votre éducation, et même aujourd'hui, est-ce que vous, quand vous attaquez par exemple comme ça l'enregistrement de cet album, et notamment de cette sonate qui a été enregistrée des dizaines, des centaines, des milliers de fois, enfin, je ne vais pas dire, est-ce que vous avez plutôt tendance à ne plus rien écouter, à rester seul avec, ou au contraire, de vous imprégner et ensuite de trouver votre...
Plutôt de ne rien écouter, parce que j'avais une période quand j'écoutais énormément de pianistes, ça m'a passionné, j'avais mes préférés.
À quel moment dans votre éducation?
Et c'était 14-15 ans peut-être. D'accord. Ou à partir même de 10 ans, mais on n'est pas tellement influencé à 10 ans, mais à partir de 12-15 ans, on est quand même assez influencé par des interprètes qu'on aime. Maintenant, j'écoute presque pas les pianistes, rarement seulement, quand quelque chose, vraiment une version m'intéresse, et je sais qu'est-ce que je vais écouter en avance, qui ça sera. Mais surtout quand j'enregistre, j'essaie vraiment de m'isoler un peu, parce que je me concentre vraiment de ce que j'ai envie de dire. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on a envie de dire et si on a quelque chose à dire, parce que sinon on ne peut pas faire une interprétation, sinon on peut faire une copie, une belle copie même, mais ce n'est pas quelque chose de très naturel qui vient de notre profondeur soi-même. Donc j'essaie vraiment de... Surtout pour l'enregistrement, de faire une interprétation qui vient vraiment de moi. Après, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais c'est très naturel pour moi.
Vous avez prononcé le mot important, quelque chose à dire, avoir quelque chose à dire. À quel moment dans votre vie, dans votre éducation musicale, vous avez senti que vous aviez quelque chose à dire? Est-ce que c'est venu très très jeune, très tôt, dès le début, ou est-ce que vous avez eu une sorte de flash? Comment ça...
Artistiquement, j'ai senti déjà depuis que je suis toute petite, disons 10 ans, que j'avais quelque chose à dire, mais ce n'était pas très concret. Dans la musique, probablement, quand j'ai senti...
Une pulsion, c'était quelque chose de...
Mais c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, de laisser une empreinte quelque part, ou quelque chose qui vient vraiment de moi. Je ne sais pas dans quelle forme de l'art ça pouvait sortir. Même si je faisais toujours que de la musique et que de piano, je ne savais pas exactement si c'était l'eau vraie possibilité de justement dire quelque chose qu'on a envie de dire. Mais j'ai senti très profondément que c'était par le piano que je pouvais exprimer toutes ces émotions. J'avais à peu près, je crois, 19 ans. En fait, c'était quand je suis partie pour la première fois étudier à Vienne. Et quand je commençais vraiment d'être indépendante, cette indépendance j'avais déjà avant parce que je voyageais quand même beaucoup, tout seul quand j'étais toute petite. Mais là, je devais vivre toute seule. Et c'est là, j'ai commencé, je crois, à réfléchir différemment et de vraiment avoir confiance de soi-même. Parce que si on n'a pas confiance de soi-même, on ne peut pas dire ce qu'on a envie de dire parce qu'on pense que ce n'est pas bon ou les autres vont se moquer de nous ou ça sera grave. Ou des choses comme ça. Et donc là, j'ai commencé à avoir confiance en moi et je me suis dit, même si c'est mauvais, c'est pas grave, l'important c'est de s'exprimer. Donc c'était à l'époque quand j'avais 19 ans, disons. 19 ans, 20 ans.
Comment s'est passée votre éducation musicale à Tbilissi? Donc d'une famille de musiciens, vous jouiez même, je crois, avec votre sœur aussi au piano
à
quatre
rock,
mains.
On joue à la rock. Cette année, je suis très contente parce que c'était un vrai bonheur de jouer avec elle. Non seulement parce qu'elle est une bonne pianiste, mais parce qu'on s'entend très bien au piano. Mes parents ne sont pas musiciens, mais ma mère, elle est très musicienne, c'est-à-dire naturellement musicienne, même si elle n'a pas fini le conservatoire. Et même aujourd'hui, des conseils qu'elle me donne, c'est toujours le juste, parce que c'est probablement elle qui me connaît le plus au monde. Donc voilà, c'est elle qui nous a fait connaître la musique depuis que nous sommes nés, et même avant, je crois, parce qu'elle nous faisait entendre déjà avant. Et on a commencé à chanter quand on était toute petite, notre première année de notre naissance, et après notre naissance. Et c'était surtout la musique folklorique et les chansons géorgiennes.
Est-ce que j'allais vous demander l'influence du folklore géorgien sur votre...
Il y a probablement une grande influence, parce que mes amis musiciens, ils me disent que j'ai plutôt potentiel polyphonique, que j'entends très bien la polyphonie et les harmonies, et non seulement la mélodie, mais aussi tout ce qui se passe au milieu et en bas. Et je crois que ça vient un peu de folklore géorgien, parce que le folklore géorgien est quelque chose de très polyphonique. Et ils défendaient leur polyphonie, ça fait des siècles, avec beaucoup de force. Parce que c'était quelque chose de très, très, très important pour eux. Je ne comprends pas pourquoi tellement important, mais je crois que c'était vraiment dans leurs racines. Et l'exemple, je vais vous dire, quand on a eu le christianisme, c'était au 4e siècle. Les chansons religieuses de grecs, c'était une seule voix. Et ils voulaient créer ça aussi en Géorgie, parce que c'est eux qui ont apporté le christianisme chez nous. Et les Géorgiens, ils ont fait tout pour garder leurs trois voix pour les chansons d'église, pour les chansons religieuses. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très, très profond et qui vient de très loin. Et je crois que ça m'a probablement beaucoup influencé, et ça reste aussi dans mes racines, probablement, très fort. Thank you.
Qu'est-ce que vous gardez du conservatoire, de vos souvenirs de cette période de conservatoire ici, avant que vous partiez à Vienne?
Beaucoup de choses. Déjà, mon premier vrai, très bon professeur, c'était quand j'avais 10 ans. Et il m'a appris beaucoup de belles choses. C'est elle qui m'a montré que la musique n'est pas seulement de travailler le piano pendant 4 heures, mais c'est aussi de voir des très belles choses, des choses très imaginatives. Et après, mon professeur au conservatoire, qui est un vrai maître, probablement le dernier maître qui reste en Géorgie, et un des derniers probablement toute ex-l'Union soviétique école, lui, c'est un vrai maître du XXe siècle, même, je dirais, le début du XXe siècle. Ça n'existe plus, en fait, aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup nourrie spirituellement parce que j'avais besoin de ça. J'ai toujours adoré les pianistes du XXe siècle, beaucoup plus que contemporaine. Donc, je voulais absolument recevoir quelque chose de cette... Je n'aime pas dire école, mais cette période-là, un petit goût de cette période que j'ai nostalgie, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas née au début du XXe siècle. Mais je sens une vraie nostalgie très forte. Donc, lui, il m'a nourrie un peu de ça.
C'était lié à des pianistes en particulier. Vous avez dit en début d'interview que vous aviez effectivement, à l'époque, quand vous étiez jeune, vous écoutiez beaucoup de disques, vous aviez des pianistes fétiches,
oui,
etc.
C'est Rachmaninov que j'ai toujours adoré, j'aime toujours maintenant. J'adore Richter, j'adore Sifra, Gould, j'adore Martha Argerich, c'est pas plus 20e siècle, mais quand même, j'ai une énorme admiration pour cette femme. Donc voilà, ce sont les pianistes. Et ils sont très différents, si vous avez remarqué, l'un de l'autre.
Effectivement. Est-ce que vous aviez en vous une certaine curiosité par rapport au répertoire? Vous avez cité cette éducation de ces professeurs. Avec est-ce que vous étiez avide de répertoire, d'ouverture, etc.? Comment ça se passait? Vous étiez... comment vous abordiez les partitions? Vers quel disque, vers quel répertoire vous tourniez? Comment ça se passait?
Chaque professeur, ils nous ont toujours conseillé, pour toi, ça sera bien si tu vas apprendre ça. Mais j'ai toujours avec des...
Coup de foudre
pour les œuvres, comme par exemple cela de Liszt. C'est pas seulement ce morceau-là, mais c'est une de mes coups de foudre. Et là, dans ces cas, je devais absolument prendre ces morceaux. Voilà, juste comme ça, c'était très émotionnel en fait pour moi. La musique, c'était pas tellement rationnel et planifié comment je devais faire, mais c'était surtout. Qu'est-ce qui me plaît en ce moment? Quel compositeur est mon préféré en ce moment? Parce que ça change énormément, tout le temps.
Votre arrivée à Vienne, c'est un choc, un passage, vous basculez dans une autre approche de la musique. Comment ça s'est passé? Ou c'était une transition assez naturelle?
Ça avait l'air très naturel de dehors, mais je crois que c'était un changement très important, je crois, dans ma vie. C'était tout d'abord une liberté totale, parce que j'étais toute seule. En fait, je croyais que je pouvais faire tout. Mais j'avais la liberté de choix aussi. Il ne faut pas tout faire non plus. Mais c'était une période assez fou dans le sens que je faisais aussi l'université. Mais j'ai commencé aussi ma vie toute seule. Et j'ai commencé un peu cette école viennoise, bohémienne, mais aussi très viennoise, qui peut être très académique aussi. Mélange de ça un peu, qui m'a beaucoup donné, je crois. J'avais des moments très mauvais et des très bons. C'était assez extrême. Je crois que ça m'a beaucoup appris, mais même si je ne pense pas beaucoup à cette période-là, je crois que ça m'a laissé des traces et probablement on grandit, on approfondit quand on a des périodes comme ça.
Vous avez dit qu'assez jeune, vous aviez réalisé que vous aviez quelque chose à dire, que vous aviez envie au moins de le dire. Est-ce qu'on coupe facilement le cordon avec ses professeurs, avec ses enseignements, toutes ces choses-là? Comment ça s'est passé avec vous?
En fait, je n'ai pas coupé vraiment parce que maintenant, quand je suis en Géorgie, je visite mes professeurs, deux surtout. Un Kizia Milejibi et l'autre Esma Kilia, et j'essaye de jouer pour eux, d'entendre des nouvelles choses par eux, parce que c'est très important pour moi. Ces gens, ils ont toujours quelque chose d'intéressant à dire, donc on ne peut jamais finir avec eux, c'est toujours intéressant. Mais à Vienne, j'avais un nouveau coup de foudre pour un professeur qui s'appelait Oleg Meisenberg, donc c'était pas très difficile pour moi, parce que j'étais assez passionnée de son univers qu'il me proposait dans l'art, dans la musique. Et puis c'était très intense, très extrême aussi, parce que c'est pas un professeur qui est très systématisé, il planifie pas ses cours en avance. Aujourd'hui, il peut donner un cours de 2h30 et le lendemain de dire c'est mieux de boire un café, je crois, à la place, et de bavarder de quelque chose. Donc il est très très artiste et ça me plaisait aussi parce que ça m'a donné une certaine liberté. Et lui, ce qui m'a donné vraiment, c'est la confiance en soi-même, c'est très important, je crois, quand on commence à devenir l'artiste, même si on est très jeune. Je crois que c'est très important. Parce qu'il voulait que je fasse sortir de moi-même le plus possible. Il ne m'a jamais interdit de faire quelque chose parce que ce n'était pas bon pour quelque chose.
Comment s'est faite la rencontre avec Gideon Kremer, avec qui vous avez enregistré notamment sur...
Bah, c'était la première fois, c'était par Oleg Maizem, parce que comme vous savez, ils ont joué beaucoup en duo. Et il m'a présenté, j'ai joué pour lui, et après il m'a invité à Lockenhaus pour jouer quelques concerts. Et après c'était fini en fait, il n'y avait rien de particulier. Après, pendant une année, je ne l'ai pas revu. Et quand j'ai fait le concours de Rubinstein et j'ai eu 3e prix, là, il m'a écrit un email très sympa et très important en ce moment-là, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument gagner, mais c'était une période très difficile, parce que oui, c'était assez dur pour moi, comme je déteste les concours. Donc il était là, et c'était la première personne qui était là après le concours, juste après le concours, en me disant que c'est pas grave qu'il a lui-même eu 3e prix au concours de Bruxelles, etc. C'était tellement énorme pour moi. Quand on a 20 ans, c'est vraiment... Même maintenant, ou même quand j'aurai 40 ou 60, ça sera pareil, je crois. Il m'a dit que nous aurons beaucoup de concerts ensemble, et c'était vraiment une belle commencement d'une histoire, je crois, parce qu'on a fait quand même beaucoup de concerts ensemble.
La musique de chambre, c'est un domaine qui vous... C'est un territoire qui vous... Beaucoup. Qui vous intéresse beaucoup?
Beaucoup, oui, ouais. Parce que c'est un peu soulagement. Avec des orchestres, c'est tellement...
C'est le calme après la tempête ou c'est...
L'orchestre, c'est comme l'océan, mais l'océan énorme. L'océan, c'est déjà énorme. Ouais. Mais avec l'orchestre, c'est comme... On a peur, comme on a peur quand on est dans l'océan, mais en même temps, on sent une énorme passion et une énorme... Je ne sais pas, toutes les émotions qui peuvent exister. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Après, on peut être épuisé. Donc, moi, récital, c'est vraiment la solitude quand on est tout seul avec l'instrument. Et des fois, même, je crois que je dois m'interdire pour quelque chose dans la vie pour ne pas perdre ces sentiments de solitude avec le piano, pour ne pas perdre cette capacité d'être pianiste soliste qui doit rester tout seul avec le piano sur la scène. Et musique des chambres, c'est justement quand on regarde un peu autour qu'est-ce qui se passe et on entend des autres aussi, quand on n'est pas seul, on n'est pas si égoïste. Et c'est agréable, j'aime bien ça.
Vous avez dit le piano, c'est le plus noir des instruments, c'est ça?
Oui, mais est-ce que vous connaissez d'autres instruments noirs déjà?
Non, je crois que c'est Rubinstein qui disait que quand on fait un métier, est-ce que vous avez peur de la mort, je crois? Et il avait dit, vous savez, quand on est habillé en croque-mort et qu'on joue sur un instrument qui ressemble à un cercueil...
Ça peut être un peu ça quand on joue seul.
Mais justement, par rapport à ça, toutes ces sensations, vous avez donné beaucoup de termes liés effectivement à la passion, à la vie, à la solitude, etc., au sentiment. Quelque chose d'aussi personnel que tout ça. Et finalement, quand on s'engage dans une carrière de musicien, on donne, c'est-à-dire qu'on a un public, on fait des disques pour qu'ils soient écoutés, on fait des concerts pour un public. Comment intervient ces deux extrêmes, quelque chose de très très personnel et qui en même temps est complètement ouvert sur le reste du monde?
Mais partager ça avec le public ou avec les gens qui écoutent le disque, ça c'est deuxième étape en fait. Premier, le travail qui est fait sur la scène ou pendant l'enregistrement, on est quand même assez seul. Parce que quand on est isolé, disons, même si on est sur la scène, on joue un morceau, il y a public plein, la salle est pleine, on doit couper complètement le contact, même si on donne quelque part.
C'est un peu d'exhibitionnisme, il faut être un peu exhibitionniste aussi.
Un petit peu, mais à part ça, il faut s'oublier aussi quelque part. Oublier le public, oublier soi-même et d'essayer juste d'écouter la musique. Vraiment, il faut oublier ce qui se passe autour. Mais c'est un peu ça aussi, c'est vrai, c'est exhibitionniste parce qu'on est là sur la scène et les gens nous regardent, mais on doit oublier ça. On doit les oublier aussi si on a envie de les donner quelque chose. Parce qu'eux, ils ne veulent pas quelqu'un qui joue, qui le regarde, pas regarder avec les yeux, mais qui joue pour eux, parce que c'est pas, on ne fait pas un service, on fait un service, mais de la musique. Donc, tout ce qui est autour, on doit oublier quelque part, pour le moment. Et après, cette fête de donner est plus forte. C'est comme dans la vie, si on donne à quelqu'un juste parce qu'on se sent obligé de donner ou on pense qu'on est plus généreux comme ça, le fait n'est pas aussi précieux. Pourtant, si on va donner juste parce qu'on a envie de donner, mais on oublie qu'on fait un geste très généreux, là, c'est beaucoup plus généreux. Donc, c'est pareil, je crois.
Vous avez dit tout à l'heure, je déteste les concours. C'est une période difficile parce que il y a ce côté jugement, enfin ce côté classement, ce côté jugement qui vous perturbe, qui vous...
C'est-à-dire, quand on joue au concours, on peut aussi oublier qu'il y a le public, le jury, jouer de la façon qu'on veut. Mais le truc, c'est qu'au concours, si on joue, ça veut dire qu'on a envie de correspondre à ce qu'il demande. En fait, ce qu'il demande, ce n'est pas d'être une artiste, souvent. Ce qu'il demande, c'est de... d'être au service de leurs demandes, souvent. Parce que tu n'as pas passé, parce que tu n'as pas fait ça, ça, ça et ça. Donc ça veut dire qu'ils ont leurs demandes et on doit vraiment faire ce qu'ils veulent. Et ce fait-là, ce manque de liberté, ça me dérange. Je n'avais pas ces sentiments pour Rubinstein, concours de Rubinstein. C'était un seul concours où je me suis sentie vraiment très libre, et comme au festival. Et d'ailleurs, ça a donné un bon résultat. Et le fait que je n'ai pas eu le premier prix, c'était ma faute. Ce n'était pas la faute de jury ou de public. Donc je me suis dit, c'est la première fois que j'ai dépassé ces moments de concours. Et ça doit être la dernière fois, parce que, avant d'être déçue par un autre concours. Et je voulais finir, parce que les concours, il faut finir. Sinon, on ne finit jamais. Les gens qui jouent des concours, avant 33 ans, quand ça limite vraiment, ils jouent tous les concours qui existent. Et si on ne finit pas nous-mêmes, et si on ne prend pas une décision nous-mêmes, parce que les professeurs ou les amis ils peuvent toujours dire « fais encore un autre », si on ne finit pas nous-mêmes, on ne décide pas, ça peut durer, ça peut être infini.
Vous avez dit tout à l'heure que vous écoutiez essentiellement des pianistes du passé, ou du siècle précédent. Comment vous êtes par rapport à vos confrères ou consoeurs? C'est-à-dire que quand vous retrouvez des festivals, il y a parfois d'autres pianistes qui jouent. J'imagine que vous ne vous bouchez pas les oreilles.
Non, pas du tout. Non, ça s'appelle ça, c'est différent. En festival, quand on s'écoute, c'est complètement différent. Je veux dire, je n'écoute pas tellement des
enregistrements. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'un milieu où vous êtes... Vous
quand même. Ouais. Même si on n'a pas envie, c'est obligé. C'est obligé. Qu'on est tellement des musiciens tous. Même si on ne peut pas tous être des artistes, vrais artistes, quand même, on est complètement musicien, on a même souvent même problème, même tic, même toc, je ne sais pas comment on dit.
Tic et toc.
Toutes les tocs, oui, des maladies pianistiques ou des musiciens, etc. Et je suis très... je ne sais pas que j'ai pitié des pianistes, mais que quand je suis dans la salle et j'écoute un pianiste, je suis aussi nerveuse que je pourrais être pour moi quand je suis sur la scène, même plus de fois. Parce que je sais qu'est-ce qui se passe et... Avant que je ne sente pas que le pianiste ou la pianiste a trouvé the edge, je ne sais pas comment on dit, le moment quand on dépasse ce problème, quand on est crispé et on trouve certaines libertés, je suis crispée aussi moi-même dans la salle. Donc je veux vraiment que le pianiste se délibère pour que je puisse aussi, sinon ça peut être une vraie torture. Mais j'aime bien, au festival j'essaie toujours de les écouter, mais le truc c'est qu'on n'a pas tellement le temps, ça dépend. Donc... j'espère cette année à Verbier, je pourrai faire un peu ça, parce que le premier concert, ça sera vite fini, et après, j'aurai un peu plus de temps de faire ça.
Vous avez cité le nom de Martha Argerich tout à l'heure, qui est toujours vivante et toujours très active, on va dire, qui a beaucoup de louanges sur vous, etc. C'est quelqu'un dans votre, qui a compté dans votre éducation musicale par rapport aux disques, etc., et même la rencontrer, etc.
C'est-à-dire, elle ne m'a jamais donné des cours, mais elle m'a influencée énormément. J'avais une période quand j'étais vraiment influencée par elle, parce que j'avais une admiration infinie pour elle. Et c'était une période quand j'avais à peu près probablement 13, 14, 15 ans. Ce n'était pas possible de ne pas être influencée par elle, parce que c'était une femme qui était un exemple pour moi, parce qu'elle me passionnait comme une femme, comme une musicienne, comme pianiste, comme personnalité en général. Oui, énorme. Et donc, quand on a 13 ans et on est complètement fasciné par elle, on a envie de la ressembler un peu. Et je crois que toutes les filles, elles ont eu ça. La plupart des filles pianistes, elles ont eu ça. Après, bien sûr, maintenant, je comprends que même si je ne suis pas aussi grande, parce qu'elle, c'est géant pour moi, elle, c'est une génie, j'ai quand même complètement différentes personnalités d'elle. Donc, c'est plus la peine d'être influencée, ou ça peut être même ridicule, parce qu'il y a tellement des gens qui la copient ou qui essayent de jouer exactement comme elle joue et faire les manières comme elle fait exactement et faire les cheveux comme elle, etc., que c'est pas la peine de le faire, parce que j'ai même pas envie, parce qu'elle est unique, c'est pas possible de la copier. Cette période-là, c'était quand même énorme pour moi. Et maintenant, chaque fois quand je l'écoute dans la salle, c'est quand même assez énorme, disons.
Comment vous avancez ? Est-ce que vous avancez musicalement en fonction ? Vous avez des envies, vous savez, par rapport aux rencontres, par rapport aux gens avec lesquels vous jouez, ou ça se fait progressivement, au hasard des rencontres, etc. Ou est-ce que vous vous projetez déjà ? Alors, peut-être pas dans 30 ou 40 ans, mais est-ce que vous avez déjà des envies de poser des balises pour les 2, 3, 4, 5 années qui viennent, en termes de répertoire, en termes de...
Alors pour les...
Ou disques comme en concert, enfin les deux.
Pour les partenaires musicaux, non, je ne choisis pas, parce que j'ai bien des hasards comme ça, quand ça se passe naturellement, et des rencontres des fois négatives, des fois positives. Ce qui concerne le répertoire, j'essaye quand même... de choisir quelques œuvres que j'adore vraiment pour l'avoir dans l'avenir, dans le répertoire. Ce qui concerne le disque, c'est très important pour moi de planifier, parce que quand j'ai fait un disque, comme vous m'avez aussi dit, il y a toute une dramaturgie dedans. Donc quand j'ai fait ça, il faut vraiment se convaincre et puis donner le maximum possible et vraiment construire quelque chose et raconter quelque chose. C'est très important. Donc les disques, ils sont vraiment très réfléchis et pensés.
Vous avez déjà des envies précises de répertoire ou d'œuvres que vous avez envie d'enregistrer?
Oui, mais ça, je ne dirai pas.
Comment on est justement par rapport au disque, à une période où, ce qu'on disait tout à l'heure sur la sonate qui a été enregistrée, etc., des tonnes de fois, il y a toujours un peu deux approches. Il y a des musiciens qui, effectivement, vont toucher un peu à des répertoires qui ont déjà été enregistrés et d'autres qui ont aussi envie parfois de toucher, d'enregistrer des œuvres, soit moins connues, soit méconnues, soit peu enregistrées. Vous êtes comment par rapport à ça ?
Moi, je n'ai pas de complexe de genre tout le monde a fait ça, donc je ne ferai pas, ou non plus inconnu, l'autre extrême, que je dois faire absolument quelque chose. Voilà. Ni l'un ni l'autre, c'est... comme je vous ai dit, j'ai coup de foudre pour les œuvres, et après, autour de ces œuvres-là, j'essaye de... trouver une dramaturgie. C'était comme pour la sonate, et après j'ai trouvé des œuvres autour qui pouvaient passer. Mais, ou pour un compositeur, parce que je pense que c'est beaucoup mieux si on présente un seul compositeur pour moi, parce que c'est l'univers de ces compositeurs qu'on ouvre. Ou sinon on choisit une thème qui est comme émotion très importante pour moi, et autour de ça on peut mettre peut-être 2 compositeurs ou 3. Mais ça sert toujours à une seule idée normalement. À quelque chose de fort que j'ai envie d'exprimer.
Par rapport aux collaborateurs, vous avez des envies, des rêves de gens avec qui vous aimeriez travailler, que ce soit des chefs d'orchestre ou d'autres musiciens en musique de chant? Est-ce que vous avez des...
Oui, Bernstein, c'est possible. Il est déjà mort, malheureusement. Non, il y a plein de musiciens que j'admire, que j'aimerais bien rencontrer, mais je ne dirais pas comme ça un seul moment.
Pas de
3 points.
Quel mélomane vous êtes ? Vous écoutez beaucoup de musique, vous achetez beaucoup de disques, vous téléchargez, vous allez au concert.
J'écoute beaucoup de musique, mais pas les pianistes ces derniers temps, parce que j'écoute assez de piano déjà,
par
moi-même.
Souvent les musiciens, c'est ce qu'ils disent souvent, les pianistes écoutent autre chose.
Et... mais sinon j'adore musique de chambre ou musique symphonique, ou même pas seulement musique classique que j'écoute.
Je voulais vous demander, est-ce que vous écoutez d'autres musiques ?
Oui, j'écoute. Parmi les Français, ça vous intéresse? Je ne sais pas.
Français ou géorgien, comme vous voulez, ou autre.
Non, j'aime beaucoup Barbara. Ouais. J'aime beaucoup Gainsbourg. J'aime beaucoup Jacques Brel. J'aime Sting. J'aime Radiohead. Plusieurs choses, différentes choses.
Quel regard vous portez sur l'industrie musicale aujourd'hui? Crise du disque, mais en même temps, avec le téléchargement, les gens peuvent découvrir peut-être plus facilement certains répertoires. Vous êtes assez jeune, vous, dans un milieu comme ça, on est dans une période de transition un petit peu. Quel regard vous portez, j'allais dire, des deux côtés, en tant que professionnelle, qui est musicienne, qui vit de sa musique, etc., et en tant juste que mélomane, qui écoute de la musique?
En fait, comme mélomane, je préfère t'acheter un disque. C'est-à-dire, je ne suis pas complètement sainte, qui n'a jamais touché iTunes ou n'importe quelle autre chose. Bien sûr que j'ai touché. Mais le fait d'acheter un disque, un
jeu de geste,
voilà. Pour moi, je ne sais pas que je suis dépendante des objets, mais je préfère ça. Mais comme pianiste, comme musicienne, j'essaie de ne pas penser à ça. Parce que c'est trop des soucis et ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. C'est-à-dire, moi, quand je suis intéressée par quelqu'un, j'achète ou j'ai download, peu importe. J'ai fait tout pour l'avoir, pour écouter. Ou je vais au concert et l'écouter en live. Mais comme pianiste et musicien, franchement, je ne veux pas toucher ce côté-là. C'est le côté artistique qui m'intéresse, le reste, ce n'est pas mon problème.
Quels concerts, les derniers concerts que vous avez vus, qui vous ont plu? Ou pas plus, enfin peut-être pas plus, vous ne voudrez pas le dire, mais qu'est-ce qui vous a, les derniers concerts?
Ça fait très longtemps que je n'ai pas été, je crois, au concert. C'est une question très mauvaise. C'est vraiment une piège. Attendez, on est quel mois là? On est au mois de juin.
On est au mois de juin déjà.
Mois de mai. Ah oui, j'étais à Salplay beaucoup de fois. Attendez, quel concert m'a plu? Le dernier concert, c'était à Paris, dans la salle Playel. C'était Nelson Frère, dernier concert, je crois, un récital, ça m'a beaucoup touchée.
Martha Argerich,
ah oui, je sais, le concert qui n'est pas tellement peut-être important parce qu'il n'avait pas grand public, c'était dans une petite salle, je ne me souviens pas le nom, où c'était pour le Japon, le concert. Et puis il y avait Martha Argerich et Ivry Gitlis où ils ont joué Liebestraum. Je ne sais pas si vous étiez là, je n'oublierai jamais. Mais c'était un peu avant, c'est pour ça que j'ai oublié un peu de nommer parmi les derniers concerts. C'était pas le dernier concert, mais c'était le concert qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Parce que c'était pas Liebestraum, excusez-moi, c'était Liebeslied. Par Ivry Gitlis et Martha Argerich, c'était esquisse.
Bon, mais écoutez, on va vous laisser du temps pour aller au concert. Alors merci beaucoup, Katia Bugnatich-Villiers.
Merci à vous.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.